Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous nocturne de Radio Foot International dans cette deuxième émission du jour. Grâce évidemment, et c'est grâce à ça qu'on vous tient compagnie, à cette fameuse Ligue des Champions. Et avec Barça-Inter, un festival de buts, un score final 3-3, de beaux buts, de belles actions dans un match fou, débridé, spectaculaire, un régal et un joueur, Lamine Yamal, en feu. On est déjà impatient d'assister au match retour à Milan. Merci les artistes. Nous tracerons un premier bilan de ces deux demi-finales. La victoire courte mais impactante des Parisiens sur Arsenal à Arsenal. Et puis cette rencontre pleine de buts, un vrai box-to-box, que cela laisse-t-il présager au retour ? Autre dimension, celle de la Ligue Europa et la belle histoire venue du froid avec Bodø Glimt, ce club norvégien du cercle polaire qui défiera les Spurs de Tottenham pour sa première demi-finale européenne à ce club. La passion argentine pour le football, jamais le Super Classico n'avait drainé autant de spectateurs au Monumental, le stade de Buenos Aires, pour assister à la victoire de River Plate sur Boca Juniors. Un jeune joueur promis un bel avenir s'est illustré côté River, Franco Mastantuomo, on va s'habituer à dire son nom, Mastantuomo, vaut-il déjà autant de convoitises des plus grands clubs ? Question que nous poserons à nos invités avec qui nous allons avant tout débriefer cette demi-finale de Ligue des Champions. Bonsoir Franck Simon.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
On est content de débriefer un match pareil. Hein ?
Absolument, on s'est régalé, on en est sorti totalement essoufflé.
Exactement, fatigué, épuisé, mais surtout enthousiasmé. Bonsoir Sharif Guémour.
Bonsoir Annie. Bonsoir à tous. Mon Dieu, quelle soirée.
Et puis alors, un Espagnol est dans la place. Bonsoir Manu Terradillos.
Buenas noches, buenas era, bonsoir à tout le monde.
Buenas noches, oui, hein, quelle folie ce match. Notre correspondant à Milan, Matteo Cioffi, nous avait fait part du titre du Corriere dello Sport. Aujourd'hui, c'était Trema Catalana, donc, et un mélange de crema catalana, de la crème catalane, le fameux dessert, mais aussi de Treme Catalogne, Tremble Catalogne. Eh bien, on va voir que c'était un avertissement qui était intéressant. David Fidel est là en coulisses, ainsi que Laurent Salerno pour compléter cette émission Radio Foot. C'est parti.
Et ça continue avec la talonnade prodigieuse de Marcus Thuram. Oh, fabuleux! La reprise de Denzel Dumfries. 2-0. Lamine Yamal s'est retourné, il va tenter l'accélération. Yamal est passé une première fois. Yamal 2-1. Pedri, le centre vers Rafinha, la remise superbe, fabuleux. Ferran Torres, de partout. Calhanoglu qui a frappé. Oh, Szczęsny qui a manqué sa sortie. Et Dumfries, encore lui. L'Inter mène 3-2. Dani Olmo qui joue le corner. Lamine Yamal qui a laissé passer la frappe. Oh, Rafinha, 3-3. Extraordinaire but de Rafinha. Et quel match, quelle émotion.
À en perdre leur souffle, nos camarades de Canal+, qui ont le privilège de retransmettre en exclusivité ces matchs en France. Alors, pas un but, vous l'avez entendu, mais des buts, et tous extraordinaires. Un spectacle magnifique sur la pelouse de Barcelone ce soir. Le match s'est donc achevé par 3-3, mais rien de nul dans ce score ni dans ce match. Et on va disséquer, ou on va s'amuser à disséquer toutes ces offrandes. Ça a commencé, Franck Simon, dès la 31e seconde, avec Marcus Thuram, et qui jouait en plus sous le regard de son papa, et à qui il va rendre hommage après son merveilleux but.
Oui, effectivement, ça commence avec l'international français, ça commence avec des joueurs qui étaient de retour sur le terrain pour l'Inter. On parle du buteur, mais on peut parler aussi de Dumfries, qui est le passeur décisif. Et ça a donné la tonalité, en fait, à cette demi-finale aller. avec l'Inter qui, contre toute attente, se lance devant le but et marque très rapidement. En fait, c'est quasiment sur l'engagement. Le ballon avait été repoussé, mais mal repoussé. Il revient sur Dumfries. Et puis après, il y a cette talonnade exceptionnelle de Thuram. Je trouve que ça a été... on a tous été surpris. Il ne fallait pas arriver en retard. et du coup, oui, on se dit, ce match, déjà, il prend une drôle d'allure. Il y a un drôle de scénario qui se présente à nous. Et on ne savait pas ce qui nous attendait et on a été gâtés.
Cette talonnade, cette majeure, hein, comme on peut l'appeler aussi Sheriff Gaymour, c'est vrai que c'est un truc de dingue. Il est presque de dos, croisé, et pourtant les défenseurs barcelonais sont revenus et sont là.
Non, c'est fantastique. Alors, on va revenir sur le centre aussi de Dumfries qui est parfait, mais c'est surtout, faut pas oublier que les attaquants, c'est très difficile d'être chaud, d'être au cœur de l'action au bout de 30 secondes de jeu. Il faut avoir couru un peu, s'être chauffé les muscles et tout.
Et puis tu travailles pas forcément ça en plus devant le but. C'est des frappes.
C'est exactement pas les talonnades. Voilà. Ça c'est
l'instinct du gars quoi.
C'est ce geste. Et en fait, il était déjà dans son match avant que le match ait commencé. C'est comme ça qu'on voit le geste ultime de l'attaquant. C'est décomposé parce qu'il est un peu pâteau quand même, on va le reconnaître Marcus Thuram, il est un peu pâteau. Là, il est délié, décomposé, au bout de 30 secondes de jeu, il faut avoir le réflexe, la vitesse d'exécution et la perfection parce qu'évidemment, le gardien, il ne s'attend pas du tout à ça.
Oui, et en face, c'est Chesney quand même. Hein,
c'est une grosse défense.
Alors continuons sur le deuxième but, sur celui de Dumfries, le Néerlandais, qui est de retour. Lui, à ce moment-là aussi.
Alors voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Dumfries, ils sont de retour de blessure tous les deux. Et il y a le but de
retourner.
Ouais, de Dumfries. Alors c'est sur un corner. Alors c'est d'abord Bastoni qui va chercher de la tête.
Achelby,
qui va chercher de la tête et il fait un geste d'attaquant qui surprend. J'ai eu peur que l'arbitre ne l'annule parce qu'il y a les pieds levés, ça arrive.
Ouais.
Voilà, mais non, là, on est resté dans l'esthétique pure.
Et c'est son premier but en plus en Ligue des Champions.
Voilà, donc après il y a le troisième aussi. Mais bon, là déjà, on va rester sur le deuxième. Ouais.
Ce qui était surprenant, Manu Taladio, c'est que avant et quand on évoquait la préparation de ce match et qu'on se projetait, on se disait l'Inter, et il le reconnaissait hein, avant d'arriver, c'était quand même trois défaites en terre italienne, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Italie. Et on se disait, bon, ils ont peut-être pris un coup sur la tête, ou alors ils étaient ailleurs pour ce qui était de la Ligue des Champions. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est eux qui assomment le Barça pendant quelques instants, à peu près pendant 20 minutes, c'est 2-0.
Oui, bon, c'est il faut voir aussi comme il est conçu l'équipe. Même si l'Inter n'est pas habitué à jouer face à des rivaux comme Barcelone en Italie, c'est pareil pour le Barcelone. L'Inter, c'est une équipe qui est construite pour attendre, pour savoir défendre, pour savoir lancer ses contre-attaques. Les premiers buts, on a une expression en espagnol parfois qui dit qu'ils se sont retrouvés avec un but. Non, ils sont créés. La première occasion, c'est un but qui a changé un peu évidemment la dynamique. Mais je crois que c'était ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, une efficacité. Oui.
Mais du coup,
extrême,
ils ont dû surprendre d'abord le Barça d'entrée quoi. On n'imaginait pas qu'il soit dans une forme aussi éclatante et surtout aussi à l'attaque, on va dire. Et alors Lamine Yamal, parce qu'on peut parler du festival Yamal aussi, même si c'est pas l'homme du match aujourd'hui, c'est Dumfries.
Tous les deux, allez, on va dire tous les deux.
C'est comme hier soir. Il a été octroyé à Vitinha, mais Donnarumma pratiquement aurait pu le partager ou le diviser en deux. Et Lamine Yamal, c'est avec sa tête blonde là, décolorée, c'est lui qui sonne un peu la
révolte.
Disons la révolte.
Ouais,
voilà, exactement.
Ouais, c'est son équipe. Ouais.
Les meilleurs joueurs du Barcelone aujourd'hui, c'est clair. C'est un peu bizarre parce que quand on voit ces statistiques, normalement il y a les doubles des passes décisives que des buts, et quand même on arrive à voir des buts d'une facture très belle comme celui qu'on avoue aujourd'hui, qu'en fait il perd les ballons, il se bat pour les récupérer et puis il arrive marqué. Moi j'ai demandé au début du match, dit Rafinha il est où, parce qu'il apparaissait pas, mais en fait c'était parce que c'était pas qu'il jouait pas bien, c'était le fait que Lamine Yamal monopolise laissé le jet, l'équipe attaquait sur les côtés droits parce qu'il avait Lamine Yamal dans un état d'effort magnifique.
Ouais. C'est ça qui est fou, c'est à cet âge-là vouloir prendre les responsabilités, c'est-à-dire réclamer le ballon, parce que c'est ça, tu as raison. Rafinha, il n'était pas du tout hors-jeu, on ne voulait pas jouer sur lui. C'est qu'il y a un joueur qui inspire confiance, qui réclame le ballon, qui appelle le ballon,
et qui va faire les décalages. Aussi. Et qui est le coéquipier pardon, les cherche pour lui donner les
exactement,
ballons.
Exactement, à 17 ans et demi, c'est comme si on avait confié les clés du camion, vas-y, Lamine, sors-nous de là parce qu'on est mené 2-0.
Mais n'oubliez pas, c'est qu'à un moment donné, ça a tellement pas dire fâché, mais ça a tellement surpris Rafinha d'être privé de ballon. Il est venu dans le périmètre. Ouais, il est venu à droite se mêler au jeu parce que lui aussi voulait participer. Bon, c'est vrai qu'en seconde période, ça s'est équilibré.
Alors donc, là, on a ce but de Lamine Yamal qui, là aussi, vous le décriviez, Manu, mais il est très beau parce qu'il s'enfonce dans la défense et entre les défenseurs, il arrive à brosser son ballon, je ne sais pas comment dire, ouvrir son pied. C'est un très beau geste, Chérif.
Oui, c'est... comment ça s'appelle ? Il nous a fait très mal déjà à l'Euro, c'est un peu le même but, sauf qu'il était un peu plus loin.
On a pensé au même but, je crois, tous.
Alors, il y a ça, il y a comment ça s'appelle, ces fameux intérieurs brossés dans le lucarne opposée, la table poteau errante.
Ça, c'est la spéciale, oui.
Ça, c'est la spéciale, c'est la perfection. Puis il y a ces externes, l'extérieur du pied. Il va falloir quand même qu'on parle des externes de...
Mais t'en as déjà parlé.
Oui, j'en ai déjà parlé. Non, mais...
Tu t'as écrit là-dessus.
Oui, j'ai écrit là-dessus, parce que, comment dirais-je, plutôt, il est gaucher, plutôt que d'essayer de contourner, de déborder son vis-à-vis. Et ça, il sait le faire, parce qu'il l'a fait avec Di Marco. Il l'a fait danser comme c'est pas possible.
Un extérieur,
ça vous permet de centrer pratiquement sans élan. Il faut avoir la force, il faut avoir la souplesse de la cheville. Il l'a, et c'est surtout, c'est soudain, c'est spontané. Il a une façon d'armer, c'est ça que j'adore chez Yamal. On retrouve ça un peu chez Salah. À mon avis, Yamal et Salah, c'est les joueurs qui arment le plus vite. On n'a pas le temps de voir. Vous voyez sur l'action, vous voyez les ralentis, vous voyez très bien le pied, comme sa façon de frapper le ballon, l'impact, vous voyez. Mais dans la réalité, ça va super vite. Et Salah et Yamal, c'est vraiment des magiciens.
Alors après, il y a Ferran Torres qui lui aussi inscrit un but.
Ouais, la
Franck.
Conclusion d'une action
alors là, collective, bien collective.
Ouais, collective, lancée par Pedri. Il y a l'avant-dernière passe, c'est Pedri qui trouve Rafinha, remise de la tête, et puis qui sort derrière Ferran Torres. Il sort dans le dos de la défense, dans un petit périmètre, et il vient battre Sommer à bout portant. Là, l'action, elle est superbe. Je trouve qu'elle.
Il y a la télépathie déjà de l'action parce qu'on dirait qu'il le pensait. Et surtout, faut pas oublier, c'est une défense italienne. Les Italiens, tu n'auras pas des buts comme ça.
Bah, la preuve que si, tu vois.
Il faut être génial et précis.
Ils en ont du génie.
C'est plein axe. Ouais.
Et là, on est à 2-2 autour de 40 minutes de jeu. Hein. Et là, il va y avoir des faits de jeu à peu près parallèles et similaires. Hein. Tout comme le score finalement, Manu Terradios, c'est Jules Koundé d'abord. Qui est blessé, qui s'écroule sur la pelouse. Il préfère s'asseoir.
Oui, il était blessé, une question musculaire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Pour moi, c'était un gros souci pour Barcelone parce que je crois qu'il est déjà Hansi Flick pensait déjà à remplacer Gérard Martin, l'arrière gauche, parce qu'il n'était pas au niveau. Je crois qu'il faire face à Dumfries, il n'avait pas les niveaux. Ça a obligé à faire entrer Eric García Araujo, ses quatre défenseurs centrales. Pour jouer, donc deux arrières à droite et à gauche qui sont des défenseurs centrales.
Un peu lourd.
Tu gagnes un peu des présences physiques, mais...
Tu perds de la vitesse.
Tu perds de la vitesse et on avoue, le 10e mi-temps, le contre-attaque. Je crois que si Thuram n'avait pas raté les trois derniers matchs, s'il était 100%, peut-être il aurait pu déséquilibrer d'une autre façon. Mais pour moi, on vient en plus du joueur qui a marqué les buts décisifs face au Real Madrid en finale. Ça a vraiment changé un peu la façon de défendre et de construire de
Alors,
Barcelone.
Jules Koundé applaudit un Jules, comme l'appellent les supporters catalans. Il a enchaîné 105 matchs consécutifs parce qu'il a été très, très utilisé. Et c'est peut-être ça aussi les limites du Barça. Oui.
L'équipe de France aussi.
On y reviendra, effectivement. En tout cas, on voit la finale. Et puis alors, Lautaro Martinez, en parallèle. Autre, c'est-à-dire chaque équipe, finalement, part au vestiaire avec un blessé sur les bras à ce moment-là. Lautaro Martinez.
Comme hier soir, Dembélé. Hein, ça fait trois joueurs qui jouent, qui surjouent.
Mais les cadences folles, elles ont été dénoncées en début de saison. On y arrive.
On y arrive au mois de mai, là. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Fin de la parenthèse.
Ça, c'est un dossier à suivre, Annie.
Lewandowski n'était pas là
pas non plus. Hein.
Et c'est vrai qu'on se dit, même si ça a pu leur donner de l'énergie, la victoire en Coupe du Roi à ces joueurs de Barcelone, ils ont joué 120 minutes quand même.
Ils en ont perdu beaucoup pour aller chercher le trophée. Ça compte ce soir.
Ça t'est donné l'énergie les 20 minutes après la fin du match, mais je crois que le lendemain, la fatigue, l'intensité du match, et pas que les 120 minutes, je crois qu'à un moment donné... Ouais, aussi,
et la Ligue des Champions. Après. Et puis alors, on a une autre deuxième mi-temps qui commence à peu près sur le même rythme. Hein, Chérif, on se perd pas là.
Ah, ça a changé parce que, comment dire, l'Inter, j'étais très inquiet pour l'Inter à la mi-temps. Je me suis dit, oulala, s'ils n'ont pas de plan B, ils vont en prendre 5. Et finalement, ils sont montés d'un cran.
Ils ont avancé.
Voilà, ils ont monté d'un cran. C'est-à-dire que là, on a retrouvé l'Inter que j'aime. J'en parle depuis des années. Je dis, regardez l'Inter. C'est pas qu'une équipe défensive. C'est pas que le Catenaccio. C'est pas une équipe qui joue en contre, qui ne joue que en contre. C'est une équipe qui sait sortir les ballons, qui sait investir le camp adverse, qui fait tourner le ballon, avoir des occasions. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et le simple fait d'être monté d'un cran, ça a fait douter ce Barça qui a quand même fourni pas mal d'efforts. Et là, les débats se sont rééquilibrés. Et là, c'était fabuleux parce que ça allait d'un but à l'autre.
Ouais, exactement. Et là, Franck, eh bien, on va conclure avec un but de chaque côté. 3-3.
Oui, alors le troisième but de l'Inter, c'est encore Dumfries de la tête. Ouais. Au passage, il grille Araujo qui venait d'entrer en début de seconde période.
Il fait 2m15, ouais. 3m20.
C'est aussi le troisième but encaissé par le Barça consécutif à un centre, puisque le premier, c'est un centre de Dumfries pour Thuram. Le deuxième, c'est un corner, donc conclu aussi. Et là, voilà, encore un centre qui trouve réception. 3-2. Là, on se dit, ça y est, là, est-ce que l'Inter va pouvoir enfin...
Tenir,
parce qu'ils ont toujours mené. Ils mènent de nouveau. Et derrière, à peine quelques secondes plus tard, il y a un exploit, une frappe de Rafinha, à la consécutive d'ailleurs à une belle action, un corner... Qui trompe le gardien. Bon,
c'est
Sommer,
une combinaison.
Ouais, c'est une combinaison. Ouais, après, Sommer a le malheur de retoucher le ballon avec sa tête, son dos, je ne me souviens plus.
Oui, le ballon va sur la barre et en fait va rebondir sur sa tête.
Du coup, c'est on ne donnera pas Rafinha.
Quelle frappe pourtant. On l'a entendu tout à l'heure sur le résumé, la frappe, le bruit, l'impact sur la barre, quelque chose.
En tout cas, un truc de fou parce qu'au final, c'est 19 tirs à 7. Ouais. Et pour un score de 3-3, c'est quand même...
Et une barre transversale au bout du match de Yama.
Mm-hmm. Un but refusé pour l'Inter, en plus.
Et un but refusé
pour un demi-centimètre des...
Ouais. Et un bout de la scène, nous a dit Chérif, pendant qu'on regardait le match.
la technologie est cruelle. Hein.
Alors, des réactions au moment de la première et celle du premier buteur de cette rencontre, quand même. Marcus Thuram, au micro de nos confrères de Canal+, en sortie de terrain.
Ben, on en sort satisfait, on en ressort très fatigué, mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute, donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après, le seul moyen pour moi de la mettre dans les buts, c'est en talonnant, et donc ça a marché. Mais en tout cas, on a fait des belles choses, mais ce sera encore un match compliqué la semaine prochaine chez nous.
Alors, Marcus Thuram a talonné le ballon, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la belle opération ce soir pour l'Inter, Franck, d'avoir arraché un nul, mais surtout d'avoir aussi marqué 3 buts? Et on le sait, on le rappelle, pas plus de buts à l'extérieur qui comptent double ni rien. Donc on repart, mais quand même, on n'a pas perdu.
Oui, c'est une belle opération. Je n'ai pas l'impression qu'il l'a arraché parce qu'en vérité, ils ont toujours mené. C'est plutôt le Barça qui a couru après le score et qui arrache ce nul. Bah si,
je suis pas si d'accord.
Mathématiquement, si.
mathématiquement oui,
c'est
mais
ça.
Mais
c'est du foot. C'est la lecture du résultat. Ils n'ont jamais été menés. Ils n'ont jamais été menés par le Barça. Le Barça a eu beaucoup d'opportunités. Sommer, effectivement, a fait sans doute plus de parades que son homologue. Pour le coup, c'est le Barça qui a couru après, qui finalement... Ils ont des regrets parce qu'ils touchent la barre et puis il y a quelques occasions. Mais en seconde période, ça peut aussi tourner un peu plus pour l'Inter. Et on n'attendait pas nécessairement l'Inter aussi accrocheur, aussi agressif. Parce qu'on l'a dit dans la présentation, ils restaient sur plusieurs semaines avec des insuccès. Et que le Barça, malgré de la fatigue... et puis des absents. Le Barça, malgré des absences également... de la fatigue de cette finale de la Coupe du Roi était là et bien là. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs ces derniers mois, le Barça. Et à l'arrivée, on en a été essoufflé parce que ça a été une course-poursuite qui a été rendue possible grâce à tout ce qu'a mis l'Inter. Mmh. Voilà. Mmh.
Mais c'était fois deux pour
oui, mais tu as raison, fois deux.
Manu, vous n'avez pas tout à fait la même lecture de la rencontre ?
Non, je crois que même quand le Barça était mené 2-0, j'avais l'impression que la dynamique c'était une autre. Je voyais quand même, j'avais cette impression qu'il allait revenir. Je crois que si à la mi-temps, que c'était deux partout, on demande à n'importe quel supporter Nerazzurri, supporter de l'Inter, si ça, est-ce que ça vous va de partout ? Je crois que ça aurait dit absolument oui. Après, on voit, il y a les Barcelone qui a tiré trois fois plus que l'Inter. Je crois que c'est un bon score pour l'Inter. Je crois que l'Inter, quand on voyait la mi-temps, quand on voyait les dynamiques et tout, c'est trois fois qu'il a frappé les poteaux Barcelone en total. Il y a Lamine Jamal qui l'a fait deux minutes après sa butte. Ouais, voilà, poteau au bar. Ouais. Donc, moi, j'ai un peu l'impression dès que l'Inter sont contents. Et ce que c'est vrai aussi, c'est que les troisièmes buts de Barcelone qui étaient marqués tout de suite, ça fait du bien à l'équipe de Hansi Flick, parce que sinon, si l'Inter tient un peu plus avec l'avantage d'un but, je crois que ça aurait été un peu plus compliqué. Mais j'avais l'impression dès que Barcelone, même avec les 2-0, était capable de revenir.
Autre réaction du côté de ces interistes, parce qu'il y a des francophones dans les rangs, et bien c'est Mkhitaryan, le milieu de terrain, que l'on va entendre dans cette réaction de nos confrères de Canal.
C'était pas un match facile et on a essayé de faire notre mieux. On a essayé d'avoir le ballon le plus possible, mais c'était difficile parce que les jeunes joueurs de Barcelone, ils pressaient très bien. C'était très dur de tenir le ballon, mais on a essayé quelques fois, même deuxième mi-temps, on a fait plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à finaliser les moments. Mais quand même, on doit être fier d'avoir un grand match ici, jouer 3-3 et le match est encore ouvert. On peut essayer de faire mieux au retour et de gagner le match.
Oui, alors mieux au retour, sans doute, pour se qualifier. Shérif, en tout cas, quand on regarde ce match, on ne s'attendait peut-être pas effectivement qu'il rentre un peu ou autant dedans l'équipe de Barça en début de rencontre. Et en même temps, on se souvient peut-être, on peut faire un parallèle avec le match qui a eu lieu face au Bayern à Munich, il n'y a pas si longtemps, où ils étaient imposés sur le score de 2-1. Et pareil, ils avaient ouvert le score, ils les avaient longtemps menés, les Allemands.
Oui, oui, bien sûr, et ils avaient fini par les battre.
Comme si c'était une tactique
Ils ne renoncent pas. Ils ne renoncent pas. C'est une équipe qui met, comment dire, c'est pour ça que je parlais de machine de guerre. Machine de guerre, c'est pas un impact pour la violence, la dureté, mais comment dire, c'est une équipe qui ne renonce jamais, qui joue par vague, notamment avec les deux latéraux. En général, au bout d'une heure, Inzaghi l'échange pour remettre encore
de l'énergie,
une pièce dans la machine, comme on dit. Et moi. Alors, je suis d'accord avec Manu, j'étais inquiet pour l'Inter à la mi-temps, je suis d'accord avec toi. Et je me disais, mais c'est pas possible, faut qu'ils fassent quelque chose, c'est pas l'Inter que je vois régulièrement. Et finalement, ils ont bien réagi, et à partir de là, ils ont attaqué jusqu'au bout. Hein. Vous avez raison, c'est une équipe qui ne renonce pas, et il y a 3-3, mais ils peuvent... on leur refuse un but, et ils peuvent encore en marquer un quatrième. C'est pour ça que ça fait un match très très ouvert pour le match retour.
Mais je voudrais juste ajouter une chose être complet sur ma façon de percevoir, parce que moi c'est ma perception à l'issue du match. Je suis d'accord avec vos analyses sur la mi-temps, mais ce que je veux ajouter, c'est que pour moi j'ai vu un Barça à réaction. Ça a été souvent le cas ces derniers temps, où effectivement par leur talent, le talent collectif, le talent individuel, ils ont réussi à battre des adversaires. Là c'était un Barça à réaction, et moi j'attendais un Barça à action, un Barça qui peut-être rapidement brise l'élan possible de l'Inter. Or là, ils n'ont fait que réagir. Alors c'est vrai, ils ont eu ce côté rouleau compresseur après être venus à 2-2 et même avant. Mais à l'arrivée, moi, je regarde le score, je regarde l'équipe qui mentalement ce soir sort avec le sentiment quand même d'avoir fait quelque chose de fort et de se projeter en se disant on peut aller chercher la qualif. Finalement, on n'est pas si mauvais que ça, c'est l'Inter. Le Barça,
je suis d'accord avec ça. Oui, c'est deux choses. C'est pour moi, l'Inter, ils sont contents avec les scores parce que voilà, ils sont allés à Barcelone. Moi, j'y voyais vraiment le Barcelone beaucoup plus fort, mais évidemment,
la
belle opération. Ouais, mais ils sont dominés, ils sont allés les ballons, ils sont allés les chances.
Match retour, je vois plus de doutes du côté du Barça qui a été très secoué, qui ne s'attendait pas à en prendre 3. Et
là, je parierais pas, tu vois. Là, j'ai vu les Barcelone cette saison, ils sont pas pères même.
Ouais, mais on les avait vus avoir beaucoup de difficultés à Dortmund, alors qu'ils avaient 4 buts d'avance.
Le fait que les buts à l'extérieur ne comptent plus, moi, ça.
Ce que dit Annie est très juste. Moi, je les ai vus à Dortmund. Si ça avait été juste 3-0 et pas 4-0, parce que 4-0 c'était bon, ils passaient. Mais quand ils sont dans la difficulté, ils reculent, ils font n'importe quoi. Et là, par moment, on a vu ça aussi.
Aujourd'hui, on n'a pas eu cette action où, comme vous tu dis, ils font n'importe quoi. Je crois qu'ils avaient les contrôles de match.
Non, pas n'importe quoi.
Je crois que face à Dortmund, ils ont fait vraiment peur. Ouais. Ce soir, je crois que...
Est-ce que quand on a autant de buts, on se dit il y a eu trop d'erreurs aussi, Franck, ou on se dit c'est aussi la beauté d'un match de football?
Moi, je dis tant mieux. Tant mieux pour la beauté.
On est d'accord, mais...
Dieu sait pourtant que je suis gardien, que je défends cette corporation, que j'ai jamais aimé prendre des buts. Mais on a eu à chaque fois des buts magnifiques et dans la construction, dans la réalisation, spectaculaire. Et ça a donné ce match, cette intensité, ce spectacle. En fait, il n'y a pas meilleure publicité pour la Ligue des Champions, je trouve, que ce qu'on a vu ce soir. Voilà. Mmh. Si on compare avec la demi-finale aller qui s'est passée hier du côté de Londres, et on va peut-être en parler dans quelques instants, j'ai eu plus de plaisir à vivre ça. Les gardiens ont quand même fait des parades, en particulier Sommer. C'est vrai que Chesney a sorti aussi
des belles sorties au pied de libéraux. Ouais. Et ça fait peur au Barça. C'est pour ça que je parlais de doutes psychologiques, parce que Chesney...
C'est vrai qu'on ne le comptait pas quand on voit ce que l'Inter a fait. Tu dis, ils ne sont pas frappés les poteaux. Voilà. Mais il y a deux, trois fois que Chesney a dû sortir. Si Thuram était un peu mieux physiquement, peut-être
on a eu du spectacle. Pour en venir à la beauté du spectacle, il faut rendre hommage aux entraîneurs qui osent le déséquilibre, des entraîneurs comme Flick. Oui. Voilà, ils jouent avec un bloc haut, ils prennent des risques, ils jouent ils prennent le pari du déséquilibre, et forcément, ils peuvent se faire prendre en compte et des buts. Mais, comment dire, c'est une équipe qui penche vers l'avant, donc qui fait du spectacle et qui marque des buts. Et en face, je le répète, l'Inter, c'est une équipe aussi qui se projette, qui prend des risques. Je ne sais plus combien de fois ils ont fini avec pratiquement la meilleure attaque en Serie A ou la deuxième meilleure attaque, avec la meilleure défense. Au bout d'un moment, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ça pouvait donner que ce spectacle.
Et ça, c'était intéressant ce soir.
Sans Lautaro Martinez.
Qui est sorti effectivement au moment de la mi-temps. En tout cas, c'était intéressant cette confrontation entre la meilleure attaque de la compétition pour l'instant, Ligue des Champions, contre la meilleure défense.
Ils se sont maîtrisés.
Finalement, il y a eu un équilibre.
Très peu de violence, très peu de cartons jaunes, très peu de fautes. Et à la fin, de toute façon, c'est ça le signe aussi des grands matchs. Respect mutuel des deux équipes qui se sont saluées.
Alors, on parlait du festival Yamal. Un petit coup de chapeau parce que Lamine Yamal disputait son 100e match sous les couleurs barcelonaises en tant que professionnel, bien sûr. Et il a 17 ans et 6 ou 7 mois. Il est
le plus jeune aussi buteur en demi-finale de la Ligue des Champions.
Exactement, ouais. Et puis, cette saison, c'est 49 matchs, toutes compétitions confondues, 15 buts, 20 passes décisives. Et tout ça à 17 ans, c'est extraordinaire. Alors messieurs, au sujet de ces deux demi-finales qu'on a eues finalement, deux demi-finales inattendues, vous le disiez Franck, vous avez préféré effectivement ce côté presque généreux et énergisant.
Le scénario était fantastique.
Cette demi-finale ce soir. Hier, il y a eu... Alors, on ne s'attendait peut-être pas à ce match ce soir. Hier, on ne s'attendait peut-être pas non plus à une victoire avec un seul but là-bas à Londres du Paris Saint-Germain. Comment voyez-vous le parallèle entre ces deux demi-finales et comment se projeter sur les retours ?
Je vois quand même que c'était très serré également hier soir. Il y a eu un but assez rapidement, comme pour ce...
Ça a tout bouleversé.
Exactement.
Voilà, ça a changé les équilibres.
C'était 26 passes pour aboutir au but de Dembélé en très peu de minutes. Et là, c'était 34 mètres parcourus sur le terrain par Yamal avec balle au pied.
Il y a eu un seul but, mais il y a eu également beaucoup d'opportunités de marquer. Il y a eu aussi des buts refusés. Il y a quand même, je trouve, des équipes qui étaient très proches l'une de l'autre. Je trouve que ça se ressemblait beaucoup, moi, entre Arsenal et Paris Saint-Germain hier.
En fait, c'est le paradoxe. Hier soir, on a eu deux équipes qui se ressemblent, donc qui se sont neutralisées. C'est-à-dire deux équipes qui aiment bien faire tourner
le ballon.
Mais
quand même un but,
oui. Mm-hmm. Alors que là, c'est comment ça s'appelle ? C'était deux équipes au style différent.
Ah oui.
Et justement, c'est l'opposition des contraires qui a donné un super match hier. Alors que hier, les deux équipes se ressemblaient. Elles se craignaient l'une de l'autre. C'est deux équipes de possession. Et on l'a vu, finalement, il n'y a pas tant d'actions dangereuses des deux côtés hier, quoi. Alors qu'aujourd'hui, justement, c'est l'opposition de style qui a fait la beauté. Et surtout, les buts marqués très tôt. Mais alors, autant hier, ça a complètement inhibé, ça a complètement changé les plans d'Arteta, à mon avis. Mmh. Ça s'attendait pas à ça, il a fallu revenir. Et là, par contre, ça a complètement ouvert le jeu.
C'était un feu d'artifice.
C'est le foot, hein, c'est au bout d'un moment.
C'est pas prévisible. Hein. C'est pas prévisible.
Manu, ça va être fou au match retour, finalement, parce que là, c'est difficile de se projeter là, sur qui sera en finale.
Ah, c'est, j'ai dit tout à l'heure, je ne parlerai pas, qu'est-ce qui va se passer. Non, la différence que je vois un peu entre les deux, c'est que pour moi, ce soir, on a vu deux équipes au top de ce qu'ils se font. On ne va pas demander à l'Inter d'avoir les ballons. Hier, j'attendais un peu plus de l'Arsenal. Je ne sais pas si c'est les buts marqués si vite par les PSG qui a fait que l'équipe d'Arteta.
T'es un peu assommé.
Oui,
hein.
On dit qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit. J'attendais un peu plus, surtout après avoir vu ce qu'ils ont fait face au Real Madrid. Mais je trouve légèrement un peu plus favori les PSG, mais quand même, je dis, après la meilleure décision de FIFA, UEFA, tout le monde, d'enlever les valeurs doubles et des buts marqués à l'extérieur, que pour moi c'est magnifique, on peut attendre n'importe quelle finale.
Et
franchement,
oui. Ouais. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est difficile, Franck. Hein.
Je ne m'hasarderai pas à faire des prédictions, je suis très mauvais, mais j'espère qu'on aura. Non. J'espère qu'il y aura du spectacle. C'est ce qu'on aime dans ces compétitions-là. Les Français, les supporters français, le football français attendent de revoir le Paris Saint-Germain. En finale, on a l'impression que c'est un véhicule ou une fusée ou ce que tu veux qui est programmé pour aller la chercher. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ils savent bien voyager. Bon, hormis Aston Villa, mais ils savent voyager, ils savent marquer des buts à l'extérieur. Le Paris Saint-Germain, a priori, a des prédispositions pour attraper la finale. Mais pour ce qui est de...
En plus, ils jouent chez eux, alors.
Voilà, en plus, au Parc des Princes. Mais Inter, Barça, franchement, je saurais... Après ce match, je ne sais pas quoi dire.
Après cet petit avantage, un corner, n'importe quoi qui peut changer les matchs. Qui ne dit pas qu'il y ait peut-être un corner, première minute Arsenal qui marque.
Ouais. Ils ont battu le Paris Saint-Germain en tout début de saison, mais c'était
un autre PSG.
C'était un autre Paris Saint-Germain.
Parce que là, c'était un match sans réponse.
J'ai du mal à croire que Arsenal ne réagisse pas au match retour.
Pareil. Mais
ça fait pas un pronostic. Ça, c'est juste une impression.
Si ça arrive à mettre le rythme.
C'est pas possible.
Le rythme Premier League au match, voilà. Là, les PSG.
Voilà, c'est pas possible.
Mais on espère ça. On espère qu'il va en ressortir quelque chose de fort, de beau pour le football européen, possiblement pour le football français. Et tant mieux, mais voilà, c'est aussi des demi-finales de très grande qualité. J'espère qu'on va arriver aussi à ça dans les compétitions CAF. Pardonnez-moi cette intrusion dans le football africain. Mais bon, dans les compétitions CAF, on continue de comptabiliser un but à l'extérieur comme un but double, qui vaut double. Et moi, j'aimerais bien qu'on en arrive à ce qui se fait
même
ailleurs.
Raisonnement.
Ouais. Faudrait voir ça de près. Parce qu'avec le but qui compte double à l'extérieur, on a eu aussi des matchs extraordinaires. On a tendance à l'oublier. Il y a débat pour moi, il y a débat.
En tout cas, la Coupe d'Europe, il y a la Ligue des Champions et puis il y en a une autre, c'est la Ligue Europa. Et c'est avec une belle histoire venue du froid, même du cercle polaire. Nous aurons demain soir l'une des deux demi-finales qui opposera Tottenham à Boudou. Alors, Boudou, on apprend à le dire.
Boudou.
Boudou Glimt. Ça ne s'écrit pas forcément comme ça se prononce. C'est un club de Norvège qui va disputer sa première demi-finale européenne. Shérif, ils ont fait des matchs absolument sidérants pour une équipe qui est une toute petite équipe. Alors, les données sont dingues. C'est un club qui existe depuis une centaine d'années, mais ils ont un tout petit stade de 7500 places. Ils jouent là-bas l'autre jour, juste avant de recevoir la Roma, il tombait une neige absolument décourageante. Oui, peut-être aussi.
Il fait froid.
Ils jouent sur du synthétique, certes. Ouais. Mais en plus, ils ont un style de jeu quand même, cette équipe.
C'est-à-dire que, comme disait Jean Dupeux, il y a le foot du Nord et le foot du Sud. Le foot du Nord, on est obligé de courir longtemps quand il fait très froid. Et donc, c'est une équipe qui est en mouvement, ça, c'est sur ce qu'on a vu, l'équipe nordique. Ils jouent en 4-3-3, c'est-à-dire qu'ils ont des intentions. Et c'est un nom quand même qu'on voit depuis certaines années, hein, quand on suit un peu le foot et tout. Alors, bon,
ils avaient fait la Ligue, Europa. Mais...
Voilà, c'est plus la Ligue Europa que la Ligue des Champions, mais c'est un nom qui revient. Au début, bon, ça fait sourire, on dit tiens, les Norvégiens, ils sont là.
Enfin, il y a une histoire des clubs norvégiens dans le football européen.
Oui, bien sûr.
Rosenborg Trondheim, on a eu Molde, on a eu Viking Stavanger.
Oui.
Bon, c'est pas les premiers à
briller. Le truc qui m'avait fait tiquer, c'est quand ils avaient éliminé Olympiakos, ils avaient gagné 3-0 au match aller. Je me suis dit tiens, là, ils vont sûrement passer.
passé. En huitième de finale.
Il y avait la Lazio.
Tirage au sort contre la Lazio. Je dis bon, la Lazio, ils ont gagné. Quand ils ont sorti la Lazio, je me suis dit oulala, ça devient sérieux.
Ils les sortent au tir au but, oui, mais après une victoire sur leur terrain au match aller.
Donc du coup, j'avais regardé les deux résumés parce que ça m'intriguait. Alors, on va être honnête, je connais pas les joueurs, on les connaît pas.
Voilà, il y a quelques Danois. Voilà, et il y a un entraîneur norvégien qui est Knudsen.
C'est vrai. Qui est là depuis 2020 et en fait, ça fait 4 ans qu'ils sont champions de Norvège depuis qu'il est arrivé pratiquement.
Oui,
il est là depuis 2018.
Et ce qui est touchant, c'est que la moitié de l'équipe, évidemment, c'est des joueurs du cru, donc c'est un truc qui se perd. C'est la belle histoire, c'est le petit conte de fées des Coupes d'Europe. Et du coup, voilà, on les attend sur Tottenham. Ils n'ont plus rien à perdre, ils ont tout à gagner, quoi.
Mais ils ont gagné.
Manu,
je crois que je les soutiens tous, sauf les fans de Tottenham, pour ces matchs. Non, si je voulais simplement ajouter que quand on voit aussi l'équipe, normalement, quand on pense à des équipes comme ça qui arrivent en demi-finale, en quart de finale d'une grosse compétition, parce que pour eux, c'est une grosse compétition, on pense à une équipe qui a gagné 1-0, qui défend. Et en fait, c'est une équipe qui marque des buts, qu'ils sont marqués 5 buts face à Twente, qu'ils sont marqués 3 buts face à l'Olympiakos. Donc, c'est une équipe quand même qui sait qu'est-ce que c'est marquer des buts et qui joue
offensive.
Qui se referme pas derrière. 1-0 l'aller, et puis c'est repart tous les retours. Voilà, non, c'est tous les contraires.
Mmh. Franck ?
Moi aussi, ce qui me frappe avec ce club qui a franchi tant d'obstacles, compte tenu des circonstances,
de là d'où
ils viennent, là, ils viennent juste de reprendre leur championnat. C'est-à-dire que le championnat...
Ouais, 3-4 matchs,
C'est-à-dire que le championnat, il s'est arrêté au moment de l'hiver. Hein. Derrière, il a fallu quand même l'occuper cet hiver. Mais il y avait aussi des rencontres européennes à disputer.
Ils n'ont joué que 4 matchs
de la saison. Mais malgré tout, T'es encore sur le front européen, tu dois quand même jouer ces matchs. Tu fais comment ? Tu t'entraînes, tu cours beaucoup. Ils avaient le coffre, mais ils n'avaient pas énormément de matchs. Et sur ces matchs-là, ils ont quand même réussi à d'autres... Enfin, tous ces exploits que tu as énumérés, Shérif. Moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, ils ont déjà gagné. Dès le moment où tu es là, dans le dernier carré, tu as gagné.
Bien sûr.
Ce qui est touchant, c'est que ça me rappelle le foot d'antan avec les tirages intégraux, les Coupes d'Europe avant, où il y avait toujours des équipes inconnues, que ce soit dans les pays de l'Est, en Scandinavie, et toujours des clubs on ne connaissait pas.
Dis des noms comme ça pour voir, des clubs qui t'ont...
Des noms, je sais pas.
En Hongrie, Vidéoton.
Vidéoton, c'est ça. Bah, justement, Helsingborg, quand on les voyait en Ligue des Champions, au début des années 2000, tu vois, il y avait un style.
Les clubs d'Irlande du Nord.
Les clubs d'Irlande du Nord, les clubs écossais.
Les Ukrainiens aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Le jour où on a vu arriver, justement, le Shakhtar Donetsk, au début, pareil, on commence à voir le nom, une année, deux années, trois années, puis après, ça fait Ligue des Champions, ça fait quart de finale. Et cet autre football, ce que j'appelle l'autre football dont on avait un peu perdu la trace, le football des pays de l'Est, les grands clubs serbes ou croates et tout. Puis là, ça vient de l'Europe du Nord, du Danemark, comme vous l'avez dit, du cercle polaire. On ne savait pas d'où ils viennent. Et ils sont en train de créer l'exploit.
Ouais.
Mais on va regarder ce qu'ils vont faire demain contre Tottenham. Mais c'est
exactement
évident que c'est ce match-là qu'on va regarder.
Et ils jouent contre Tottenham qui est 16e de première ligue.
Ils sont très mal.
Et en plus, ils vont jouer sans Son, leur fameux joueur coréen qui est blessé et qui donc sera absent. L'autre demi-finale, en quelques mots, là, elle est entre guillemets plus classique, mais pourtant...
Celle-là, elle fait mal.
Manu, on a l'Athletic Bilbao qui va se retrouver face à Manchester United. Alors là, c'est deux équipes plutôt habituées à la scène européenne. L'Athletic Bilbao va bien en Liga, ils sont quatrièmes. Les Red Devils, on cherche. Ils sont juste avant Tottenham, ils sont 14e de la Première Ligue. C'est une belle chance pour l'Athletic Bilbao. Pourquoi ? Parce que la finale se joue chez eux, à San Mamés.
Exactement, donc une motivation extra. Bon, ils sont quatrièmes quand même, ils sont bien l'Atlético, l'Atlético de Madrid. Ils vont, je crois, se battre pour arriver, ou voir s'ils sont capables d'arriver piquer la troisième place à l'Atlético.
Ouais.
Il y a cette motivation. Pour moi, c'est aussi bien le fait qu'ils vont jouer à la maison les premiers matchs, parce que c'est une équipe qui sait se battre très bien quand ils jouent à la maison. Ils sont Nico Williams, je crois que les Français le connaissent bien depuis l'Euro, le dernier Euro. Donc, je crois qu'ils sont en confiance. On avoue, comme l'Olympique Lyonnais ont failli se qualifier face à Manchester United, donc ce n'est pas les grandes équipes d'Alex Ferguson. Donc, je vais pas dire qu'ils se voient déjà qualifiés, mais
c'est pas possible que Bilbao n'élimine pas Manchester United. Il n'y aurait pas de morale dans ce sport.
Manchester United qui était mené
je sais. Le mérite n'existe pas en foot. Mm-hmm. Non, mais quand on voit Lyon...
Le naufrage lyonnais. Franck, un petit mot sur cette demi-finale.
Forcément, derrière Bilbao, derrière le club basque. pour quelqu'un dont le club préféré est Everton, si vous voulez, je peux pas pousser Manchester United, qui est le club honni par les Toffees. Donc, ouais, naturellement, non. Puis voilà, Bilbao, pour ce qu'il propose aussi de football, de talent, il y a du talent, il y a de la jeunesse. C'est assez rafraîchissant ce qu'il propose. Donc, on espère effectivement qu'ils vont quelque part, ils vont faire respecter le football.
Il y a une logique sportive quand même, entre le 14e de Première Ligue et
la
le
victoire.
4e.
Et que l'Athletic de Bilbao, c'est une équipe un peu anglaise, hein, qui a la façon de jouer, c'est battre, et intense, les duels, etc.
Ils ont perdu ça. Il y a
de l'Athletic. Oui, en tout cas, la victoire du football, hein, comme dirait As. Et puis en Ligue Conférence, un club espagnol, encore le Betis Séville face à la Fiorentina. Et puis le football du Nord. L'autre demi-finale, ça sera Djurs Gardens. C'est un club de Suède et ça sera face à Chelsea. On continue et on termine avec l'Amérique latine.
Et va pegar Matantuono. Va Matantuono. Golazo de Matantuono. Era para hacer silencio. Qué bien que le pegó Franco Matantuono. River tiene uno, Boca tiene cero, pero qué pedazo de gol, Juanjo.
Le bombasso de Mastantuono. Retenez donc ce nom car on va en entendre parler ces prochains temps. 17 ans et 8 mois, le jeune Franco, formé au club de River Plate, qui a donc marqué les esprits en ouvrant le score, puisque River Plate s'est finalement imposé sur le score de 2-1 face à Boca Junior, bien sûr, dans le Super Classico. Et c'était sur un coup franc spectaculaire du jeune Franco et qui avait bien préparé son coup, il l'a dit.
J'ai beaucoup discuté avec Pity Martinez, mon coéquipier, qui a beaucoup d'expérience et qui a tout gagné ici. Il m'a conseillé de ne pas trop me laisser distraire par l'ambiance, par les aspects extérieurs qui sont chargés d'adrénaline lors des derbies, et c'est normal. J'ai cherché la concentration et ses conseils m'ont beaucoup aidé. C'est le match que j'attendais le plus depuis que je joue en première division. Je suis heureux et ému. On ne peut que rêver de ces choses-là, que votre équipe l'emporte. Ce sont des moments uniques.
Alors évidemment, il y a tout pour impressionner, hein, ce geste de 30 mètres.
Presque 30 mètres, hein, ouais. Pleine lucarne, évidemment, ça fait le tour du monde. C'est vertigineux. Si les meneurs de jeu, Argentin, Boca Junior, c'est vraiment...
Bon, déjà, non, c'est River Plate.
Pardon. Oh là, River Plate.
Si Alejandro vous écoute, alors...
Pardon, Alejandro. Non, mais c'est évidemment, on va projeter tous les fantasmes qu'on a sur les meneurs de jeu argentins. Pas grand, 1m77, bon, c'est pas non
Est-ce
plus...
Est-ce qu'il est gaucher?
Non, c'est un coup franc du droit, il me semble. Mmh. Mais comment dire... qu'on ne nous le gâche pas. Je veux dire qu'il ne se retrouve pas en Europe dès l'année prochaine parce que, voilà, que j'ai rien qu'il a un peu un parcours à la Neymar, qui restait quand même le temps qu'il fallait à Santos.
Exactement.
Pour se projeter. Voilà. Parce que si c'est déjà, les clubs anglais, les clubs espagnols, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais visiblement, c'est un peu le nouveau dieu du football argentin.
Alors justement, il a été formé à ce club. Ça fait plus d'un an qu'il est titulaire à River Plate. Et c'est vrai que les noms des plus grands clubs circulent autour de lui. On a même dit qu'il y avait déjà eu un accord passé avec le Real Madrid. J'ai même lu quelque part qu'il arriverait, je crois, le 14 août, hein, ça doit être le lendemain de son anniversaire et de ses 18 ans, le 14 août prochain à Madrid. Mais ce n'est pas aussi clair que ça, vraisemblablement, Manu.
Non, apparemment, ça c'est un peu compliqué. Oui, on parlait en fait de l'opération du Real, serait les départs d'Ancelotti, l'arrivée de Solari, l'ancien joueur argentin, avec lui. Pour renforcer l'équipe l'été. Mais apparemment, c'est que les Real Madrid fait, ils ne se pardonnent pas des problèmes qu'ils ont eu avec son agent dans les passés. Je crois que les clubs s'approchaient de lui pour essayer de les signer la dernière saison. Ils n'ont pas aimé comme il a réagi ou comment il a agi plutôt. Et une opération qui, il y a 3-4 jours, était un peu assez claire quand même. On parle de l'un des meilleurs joueurs du dernier championnat sud-américain moins de 20 ans. Mm-hmm. Et bien finalement, le dernier heure, apparemment, les Real Madrid a dit non, on va pas continuer à négocier.
Donc il y en a d'autres, hein, évidemment, Chelsea,
Manchester United,
peut-être. Le PSG, qui sait, ou Barcelone. Hein. En tout cas, Franck, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce jeune?
Ajouter, non, mais j'ai une question pour vous, parce que je n'ai pas trop suivi ce dossier. Est-ce que c'est un garçon qui est susceptible d'apparaître en Coupe du Monde prochainement ?
Non, il est 17 ans, je crois qu'il
Non, mais j'entends que c'est le nouveau dieu du football argentin, donc est-ce qu'il est...
L'année prochaine ?
Est-ce qu'il peut être...
L'année prochaine, faire le groupe ? Il pourrait faire partie de l'effectif, mais je ne crois pas qu'il jouera.
Mais il peut être...
Moi, je pense qu'il sera dans les 23, mais qu'il ne jouera pas.
Oui, voilà, un peu comme quand on avait eu à l'époque...
Maradona et Menotti.
Oui, et puis voilà. Sauf que
il l'a pas pris, mais
il l'a pas pris en 118.
Voilà, c'est ça.
Il a 17 ans, si je ne me trompe pas, et déjà il était, il faisait partie de l'équipe des moins de 20 ans, donc ça montre bien qu'il est au-dessous du niveau des zonages. Mais après.
En tout cas, moi je voudrais revenir aussi sur votre souci, Shérif. Et c'est ça, c'est on a vu des très jeunes commencer très tôt.
Mais regardez Hendrix au Real Madrid. Mais
exactement.
Il y a Güler aussi dans les petits jeunes du Real.
Exactement. Vinicius était arrivé très jeune.
Vinicius est arrivé.
Alors lui. Ça s'est plutôt bien passé, mais après on pense à tous les jeunes de Barcelone, Ansu Fati, Pedri, Gavi, et qui ont tous été très blessés. Alors Pedri a retrouvé son niveau, mais quand on pense
c'est la crainte
Ansu
pour
Fati,
mais vous savez, c'est la crainte que j'ai pour Yamal.
Mais on peut l'avoir pour tous ces jeunes.
Mais avec Lamine Jamal, ils ont bien appris à Barcelone comment faire avec lui. Il ne jouait pas tous les matchs, pas tous les temps, parce que Pedri s'est exagéré il y a 2 ans. Il avait tout joué.
Oui, il avait joué l'Euro.
La Barcelone, vraiment, fais attention qu'il ne joue pas trop, pas tous les matchs, tous les minutes, etc.
Il y a deux choses qu'on peut redouter. La première, c'est tout de suite de passer, comment ça s'appelle, au mode, au style de jeu européen qui est très, très, très énergivore. Il faut être très costaud tout de suite, il faut faire de la muscu, il faut être au taquet tout de suite, surtout dans les grands clubs. Et la deuxième chose, j'avais souffert pour Julian Alvarez, argentin, qui joue à, comment ça s'appelle, qui se retrouve à Manchester
City.
United et qui ne joue, pardon, à City et qui ne joue pas. Qui est remplaçant. Alors,
après Pep Guardiola s'étonne qu'il ait préféré partir.
Il est parti à l'Atlético et pareil, il n'était pas tout de suite titulaire. Là maintenant, il est titulaire. Là maintenant, il s'est révélé et surtout, laissez-les grandir. Parce que si c'est pour faire banquette, pour jouer des matchs de temps en temps.
Comme Hendrick, Franck a raison, au Real.
Ouais, mais
tout l'intérêt.
Je crois que ça fait partie aussi un peu de la stratégie des clubs européens. Hein, qu'ils se prennent les joueurs trop jeunes, comme ça ils sont formés à ces futs que vous parlez, et un peu plus forts, un peu plus énergiques européens. Et quand ils sont 20, 21 ans, 22 ans, ils sont complètement prêts pour jouer. Je crois que ça s'est passé avec Vinicius, qui était arrivé même officiellement. Il fait partie des joueurs formés. Mais Hendrick, je crois qu'ils, Real Madrid, sont très contents. Évidemment, il ne va pas être titulaire, mais ils sont très contents avec ce qu'il a fait. Avec Güler, peut-être un peu moins, mais je crois que ça fait partie d'une stratégie. Plutôt que faire venir un joueur à 22 ans qui n'est pas habitué à jouer au foot européen, on les fait venir à 17, on les forme, on les prépare. Et puis, quand il a 21, 22 ans, il sait comment ça marche le club, le foot, etc.
Alors, 22 ans, c'est peut-être trop tard, mais 17 ans, pour moi, c'est trop. C'est trop tôt. Non, Neymar, franchement, Neymar, c'était le bon parcours.
Le bon choix. Il était resté jusqu'à 21 ans au Santos. Et après, il vient un an avant la Coupe du Monde de 2014, qui théoriquement était la sienne. Ouais. En tout cas, c'est vrai que ces jeunes qu'on voit... trop utilisé, hein, Franck. C'est ça la crainte, en fait.
Pas seulement.
Cette étiquette de pépite qui vient d'Amérique du Sud.
Je l'ai vu avec de jeunes Ivoiriens qui étaient ceux de l'académie Mimos IFCOM il y a maintenant presque 30 ans. Et ensuite, quand ils sont arrivés en Belgique, mais sauf que le monsieur qui s'occupait d'eux, c'était leur entraîneur, l'homme qui les avait formés en Côte d'Ivoire, Jean-Marc Guillou. Il était leur entraîneur, il savait quoi faire avec eux. Voilà. Ils avaient 18 ans et il les a gardés jusqu'à 22, 23 ans. Mmh. Il savait les guider, il savait les utiliser avec parcimonie, leur donner un peu de temps de jeu, faire tourner, etc. Si tu as la bonne personne au bon poste, ça va. En revanche, si tu les mets dans cette, malheureusement, cette jungle du football, cette industrie du football européen qui peut détruire, ben, j'ai les mêmes inquiétudes que toi, Shérif.
Mmh. Ouais. Et puis après, c'est un coup franc, c'est aussi l'immédiateté de l'image.
Mais ça fait un an qu'il joue et apparemment il a tapé dans l'œil d'un peu tout le monde.
Alors on le verra à la Coupe du Monde, j'espère.
En tout cas, pour la première fois, il y avait plus de 85 000 personnes dans le stade monumental de Buenos Aires pour assister à ce Super Classico. Et les amis, demain, après beaucoup d'allers-retours, Carlos Bianchi, notre goleador argentin, il est de retour. Il sera dans notre studio demain, dans l'arène de Radio Foot pour l'émission de ce jeudi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir.
Plaisir,
merci pour l'énergie et on se dit à demain. Bonne nuit à tous.